Tout de suite, les infos.
Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Bruno Bayala.
Un policier en service au commissariat de Gorom-Gorom a été tué dans la nuit du 23 août dernier par des hommes armés non identifiés. Les détails dans ce journal-là. Attention, la grippe aviaire, 184 plaquettes contenant 5520 œufs ont été saisies le 21 août dernier. Ces œufs ont été détruits hier à Bitou dans le domaine du poste vétérinaire conformément aux recommandations. Éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, la liste des étalons contre le Niger et l'Algérie est connue. Qui sont les joueurs sélectionnés? On en saura dans un instant avec Benabé Cabré présent dans ce studio.
Omega Sport.
Bonsoir à tous et bienvenue. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2022, Cameroun Malo a dévoilé ce matin même une liste de 27 joueurs pour affronter le Niger et l'Algérie. Pour en parler, comme je l'annonçais, je reçois sur ce plateau Benabé Cabré du Dex Sport de Omega Media. Benabé Cabré, bonjour.
Bonjour à vous, à Bruno Bayala.
Alors, que peut-on retenir déjà de cette liste de Cameroun Malo?
C'est une liste de 27 joueurs, contrairement aux autres listes qui avaient été dévoilées pour les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations ainsi que pour les deux matchs amicaux. Et le Maroc, une liste de 33 qui avait été élargie à raison de la pandémie de COVID-19. Cette fois-ci, ce sont 27 joueurs que Cameroun Malo a convoqués. Et lorsqu'on jette un coup d'œil, il y a des absences, notamment celle de Bertrand Traoré et d'Edmond Fessal Tapsoba. Et ça s'explique, ces deux joueurs sont blessés. Bertrand s'est blessé lors de la première journée du championnat anglais avec Aston Villa et Edmond lors des préparations du championnat allemand avec le Bayern Leverkusen. Et on le savait qu'il ne pouvait pas prendre part à ces deux premières journées des éliminatoires. Autre absence, Alain Traoré et également Charles Kabouré. Et la raison aussi est simple, ils sont sans club. Alain Traoré est en fin de contrat avec le club marocain de la Renaissance sportive de Berkane. Il se trouve actuellement sans club et Charles s'entraîne avec une équipe de 4e division en France, le temps de trouver un autre club pour rebondir. On a aussi l'absence de Yacouba Koulibaly. Il y a aussi des retours et le retour qui frappe, c'est celui de Blati Touré qui a retrouvé un nouveau souffle dans le championnat suédois de 2e division. Il est titulaire indiscutable. Il a été donc rappelé par Cameroun Malo après presque 3 années d'absence en équipe nationale. Il y a aussi Brian Dabo qui signe son retour en équipe nationale. Il n'avait pas été retenu pour les deux matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire et contre le Maroc. Et c'est une absence qui avait suscité en tout cas beaucoup de polémiques au sein des supporters et des observateurs du football burkinabé. Brian Dabo qui évolue actuellement à Rizespor en première division en Turquie, qui signe son retour en équipe nationale. Et voici donc la liste. Nous avons 4 gardiens de but. Hervé Kofi Kwaku, Abakar Sawadgo, Sofiane Farida Ouedraogo et Ben Idriss Traoré. En défense, on aurait Youssoufou Dayo, Steve Yago, Somaïla Ouattara, Issa Kabouré, Oula Abassa Traoré, Herman Niki, Mohamed Ouattara et Patrick Malo. Comme milieu de terrain, Saïdou Sempore, Draman Nikema, Ismaïla Ouedraogo, Ndingolo Kanté qui vient de signer au PAOK Salonique dans le championnat grec de première division. On a aussi Gustavo Fabrice Sangaré, Blati Touré, Adama Guira et Brian Dabo. En attaque, Cameroun Malo a décidé de faire confiance à Zakaria Sanogo, Cyril Bayala, Hassan Bandé, Abdoul Faisal Tapsoba, Eric Traoré, Franck Lassina Traoré, Mohamed Konaté et Mohamed Lamine Ouattara. Première journée le 2 septembre contre le Niger. Deuxième journée le 7 septembre contre la FNEC d'Algérie.
Alors, Benabé Cabré, certainement les auditeurs se posent la question, est-ce que ces absences pourraient avoir des influences sur ces oppositions-là?
Je ne pense pas parce que Cameroun Malo a fait appel en tout cas des joueurs à qui il a confiance. C'est vrai, Charles Kabouré n'est pas présent, il y a aussi Alain Traoré, mais on a des jeunes qui ont faim, qui veulent montrer leur talent et montrer en tout cas à l'entraîneur national qu'il n'aura pas de regrets après les deux premières journées des éliminatoires. Il y a tout un contingent de footballeurs burkinabés qui évoluent en tout cas dans les championnats européens et dans certains championnats africains et c'est l'occasion pour eux, surtout ceux qui n'ont pas la confiance du coach, de profiter de ces absences pour montrer en tout cas tout leur talent.
Alors les étalons débutent donc contre le Niger.
Tout à fait contre le Niger, ce sera au grand stade de Marrakech au Maroc. Le Niger devait recevoir au stade général Sénou Koundié, mais tout comme le Burkina Faso, le stade ne répond pas aux normes. Donc le Niger a demandé à jouer au Maroc, tout comme le Burkina qui a aussi demandé à recevoir à Marrakech. On attendra de voir si la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc aura en tout cas une conséquence ou pas sur ce match Burkina-Algérie.
Voilà qui est clair. Merci à Bernabé Cabré qui était sur ce plateau pour nous parler de la liste des joueurs sélectionnés pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Une liste qui a été dévoilée ce matin, même par Kamo Malo. Direction dans la province de l'Oudalan où un policier en service au commissariat de Gorom-Gorom a été tué dans la nuit du 23 août dernier par des hommes armés non identifiés. Selon le site d'information lefaso.net, le drame s'est produit au secteur 2 de Gorom-Gorom aux environs de 21h. Le policier était sorti de chez lui habillé d'un survêtement de la police nationale pour se procurer de la cigarette. À son retour, 6 hommes armés l'ont accosté et l'ont abattu. Et lors d'une conférence de presse ce matin à Ouagadougou, l'Alliance pour la défense de la patrie a donné sa lecture de la situation sécuritaire. Le parti a dénoncé ce qu'il a appelé un déficit de communication au niveau du gouvernement. Une situation qui, vous le savez, inquiète de plus en plus. Beaucoup de citoyens se posent même la question de savoir d'où proviennent les armes de ces terroristes. Cette interrogation a poussé Amnesty International à analyser plus. Ces images ont été diffusées par la branche sahélienne islamique et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique, bien d'autres en janvier 2018 et en mai dernier. De cette analyse, il ressort que des armes qui ont été vendues récemment au gouvernement burkinabé de groupes armés et ces groupes opéraient dans le Sahel. On en sait plus avec Valérie Guéry.
Amnesty International dit avoir recueilli et analysé plus de 400 contenus numériques en provenance du Burkina Faso et du Mali, dont des photos et des vidéos authentifiées publiées sur les réseaux sociaux par des membres de groupes armés entre janvier 2018 et mai 2021. D'images montrent des stocks d'armes ainsi que des fusils entre les mains des combattants de divers groupes armés, dont le GS, le GSIM, les Dozo, les volontaires pour la défense de l'eau à la fois au Mali et au Burkina Faso. Nouveaux fusils, certains étant des modèles les plus récents qui existent, correspondent à des transactions entre la Serbie et le Burkina Faso, ce qui laisse à penser que ces armes ont été vendues récemment au gouvernement burkinabé avant de tomber entre les mains de groupes armés, a affirmé l'organisation dans son rapport consacré à la provenance des armes entre les mains des groupes armés au Sahel. Pour l'organisation, s'il s'est avéré impossible de retracer précisément la chaîne de responsabilité, il est fort probable que ces armes aient été détournées vers des groupes armés soit par des canaux illicites, soit par des prises sur les sites des affrontements. L'analyse effectuée par Amnesty International des données relatives aux transactions commerciales montre aussi que la République tchèque, la France et la Slovaquie exportent de grandes quantités d'armes légères et de petites calibres au gouvernement du Sahel depuis que cette région est le théâtre d'un conflit généralisé, souligne le rapport. L'analyse effectuée par Amnesty International des données relatives aux transactions commerciales montre aussi que la République tchèque, la France et la Slovaquie exportent de grandes quantités d'armes légères et de petits calibres au gouvernement du Sahel depuis que cette région est le théâtre d'un conflit généralisé, souligne le rapport. Entre 2015 et 2020, la Serbie a indiqué dans ses rapports annuels au traité sur le commerce des armes TCA, avoir transféré au total 20 811 fusils et carabines, 4 000 fusils d'assaut, 600 revolvers et pistolets à chargement automatique et 290 mitrailleuses au Burkina, a relevé Amnesty qui ajoute que d'après les données officielles du rapport annuel de l'Union européenne depuis 2013, les États membres de l'Union européenne ont accordé 506 licences pour des équipements militaires pour un montant de 205 millions d'euros au Mali et au Burkina Faso.
Valérie Guéret, toujours au Burkina Faso, les affectations pour nécessité de services de région à région au titre de l'année 2021 des agents du ministère de l'Éducation nationale sont désormais suspendues jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, en a décidé le département de l'éducation. Toutefois, une faveur est accordée en cas de force majeure, notamment en cas de fermeture des structures éducatives, les cas de décès ou de blessures de conjoints du fait des attaques terroristes. Attention à la grippe aviaire, Abitou, 8 cartons, soit 184 plaquettes contenant 5220 œufs ont été saisis le 21 août dernier. Cette saisie entre dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la grippe aviaire. Ces œufs ont été détruits hier, toujours à Bitou, dans le domaine du poste vétérinaire, conformément aux recommandations. Depuis que le Togo, la Côte d'Ivoire et le Bénin ont déclaré à l'Organisation mondiale de la santé animale la présence sur leur territoire de la grippe aviaire hautement pathogène, le ministère burkinabé dit avoir renforcé davantage la surveillance et le contrôle des postes frontaliers. Arrivé au Burkina le 17 février 2017, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Tunisie au Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou est en fin de mission. Ce mardi, Mohamed Kalloun est allé donc remercier le président du Faso pour l'excellence des relations entre les deux pays. Le diplomate tunisien a saisi l'occasion de cette audience pour faire le point de la coopération entre le Burkina Faso et la Tunisie. Nous l'écoutons.
J'ai fait le point avec son excellence sur les avancements de relations bilatérales et surtout j'ai fait un bilan sur les relations bilatérales pendant mon exercice ici, c'est-à-dire pendant 4 ans et 6 mois. Comme vous savez, j'étais le premier ambassadeur résident ici au Burkina Faso parce que ma mission essentielle était d'ouvrir une ambassade résidente ici. Et depuis, on a réalisé beaucoup de choses sur le plan bilatéral. On a remarqué un dynamisme bien accéléré sur le plan d'échange de visites de hauts responsables des deux pays. Malgré la COVID qui a freiné un peu le rythme des contacts et des visites bilatérales entre les deux pays, on a essayé de maintenir un niveau respecté de relations, de coopération, de contacts entre les deux pays, même parfois sur le plan virtuel. On a l'ambition de renforcer davantage la coopération et surtout, j'ai appelé que la commission mixte entre les deux pays, c'est-à-dire la prochaine session, doit tenir le plus tôt possible ici au Burkina Faso. Je crois que cette commission sera la bonne opportunité pour évaluer la coopération entre les deux pays et pour aussi élargir et signer d'autres accords et même d'essayer de trouver la solution des problèmes qui entravent la coopération entre les deux pays.
À l'instant, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Tunisie au Burkina Faso en fin de mission, Mohamed Kalloun, a été reçu en audience hier mardi par le président du Faso. Et à sa suite, Roch Abore a reçu le rapport général d'activité du Haut Conseil du dialogue social depuis sa création et l'installation de ses membres en mai 2018. À sa sortie d'audience, le professeur Domba Jean-Marc Palme, président du Haut Conseil du dialogue social, livre l'essentiel de ses échanges qu'il a eu avec Roch Abore.
Et ce rapport contient donc les activités que nous avons faites. Il s'agit du renforcement des capacités des acteurs, du règlement également des questions, des tensions dans le domaine du travail et de la sensibilisation. Et c'est voilà un peu succinctement le contenu du rapport. Nous avons également remis au président du Faso un fascicule que nous avons fait concernant la création du Haut Conseil du dialogue social. Parce qu'il faut couper court à un ensemble de rumeurs qui font croire que c'est le gouvernement qui a décidé de créer l'institution, alors que ce n'est pas du tout le cas. Tous les acteurs du monde du travail ont pris part à ce processus de création du Haut Conseil. L'historique donc retrace ça et permet à tout un chacun d'avoir des idées claires sur la question. Ça permet de couper court aux différentes rumeurs.
Le SP CONAREF, Commission nationale pour les réfugiés, a organisé hier mardi un atelier de sensibilisation, un atelier au cours duquel il a été question de formation et d'évaluation des connaissances sur les droits et devoirs des demandeurs d'asile et des réfugiés au profit des forces de défense et de sécurité à Bobo-Dioulasso. Les détails avec Antoine Bonny.
Des forces de défense et de sécurité s'informent et se forment sur les droits et devoirs des demandeurs d'asile et des réfugiés. Il s'agit pour le SP CONAREF, secrétariat permanent de la Commission nationale pour les réfugiés, de coordonner ses actions avec les FDS pour mieux protéger cette couche de la société. Maxime Bangali est le secrétaire permanent du CONAREF.
Nous sommes dans une situation sécuritaire préoccupante et les réfugiés qui sont en train de quitter ou ceux qui quittent le Mali, qui viennent chez nous, qui sont des demandeurs d'asile, sont obligés de se conformer à un certain nombre de réglementations. Ils n'ont pas d'immunité, ils n'ont pas de privilèges particuliers au-delà de ce que le Burkina Faso accorde aux citoyens burkinabés. Donc c'est pour venir nous entretenir avec les forces de défense et de sécurité pour avoir leur point de vue. Qu'est-ce qui se passe dans les frontières? Comment ils collaborent avec ces demandeurs d'asile et ces réfugiés qui habitent le Burkina Faso? Et comment, en réalité, la collaboration se fait aussi avec les acteurs humanitaires?
L'initiative du SP CONAREF est saluée par les FDS. Zakaria Ouedraogo, représentant le directeur régional de la police nationale.
Cette formation est la bienvenue et en tant que force de défense et de sécurité. Dans la gestion de ces réfugiés, il y a des difficultés que nous rencontrons, surtout au niveau des frontières. Et il faut vérifier les identités des uns et des autres, savoir qui ils sont, et afin de prendre attache avec la hiérarchie et voir comment ils vont en tout cas être accueillis ici. Souvent, ils sont dépourvus de documents pouvant identifier voilà, ces gens-là, c'est compliqué.
Le Burkina Faso enregistre à ce jour plus de 22 000 réfugiés venant à majorité du Mali.
Et merci à vous de suivre le journal sur Radio Omega dans la cité du Cavalier Rouge. Les organisateurs de la NIU atypique de Koudougou ont rendu visite ce matin à Sa Majesté le Moro Naba, parrain de la 25e édition de la NIU atypique tenue en 2020. Cette visite a pour objet la reconnaissance à Sa Majesté pour l'organisation de l'édition dernière qui a un grand succès. Le plaidoyer de la visite a été rendu possible grâce au Larlé Naba. Koubi Kouala, directeur des NIU atypiques de Koudougou, est au micro de Pierre Badelot.
Nous sommes venus ce matin chez le Moro Naba pour lui dire merci. Un grand merci, pourquoi? Parce que la 25e édition des Nuits Atypiques, 2020, celui qui était notre parrain, il nous a bien accompagnés. De par ses conseils, de par tout ce qu'il pouvait faire pour qu'il y ait une réussite incomparable de l'édition passée. C'est pour cela que nous sommes venus ici en délégation de l'association accompagnée des princes du chef de l'allée pour venir lui dire un grand, grand merci au nom de toute la commune de Koudougou.
À l'instant, Koubi Kouala, directeur des Nuits atypiques de Koudougou, au micro de Pierre Badolo. Rentrée scolaire 2021-2022, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a publié la semaine dernière la liste des écoles non reconnues à fermer. Il s'agit de 232 écoles. Le sujet a été apprécié ce matin à votre émission interactive. Ça nous concerne. Les avis sont donc partagés sur cette démarche du ministère. Si certains saluent la mesure, d'autres par contre estiment que l'État aurait pu accompagner les établissements scolaires pour soulager les parents d'élèves qui peinent souvent à trouver une école publique. Quelques extraits des interventions.
C'est l'État qui permet que ces écoles-là puissent ouvrir, puisque quand les parents d'élèves cherchent les places, ils n'arrivent pas à trouver. Bon, ils sont obligés de se rabattre dans ces écoles pirates-là. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas d'école publique, assez d'écoles publiques.
Franchement dit, bon, moi je ne sais pas qu'est-ce que nos autorités là veulent. Du moment qu'on vous oblige même à fermer des écoles dans les campagnes, et en ville, vous-même, vous vous levez, vous amenez ce problème encore. Vous voulez que les parents d'élèves rentrent où? Les enfants là vont aller bosser. Eux, on n'a pas beaucoup d'écoles primaires. Par exemple, Marine qui a fait ici, là. On a qu'une seule école primaire.
Moi, d'abord, je vais remercier le gouverneur de Koubo. Je ne sais pas si c'est en 2018 ou en 2017. Il a été le premier à fermer les écoles boutiques avant que l'État ne réagisse. Mais moi, je vois que l'État, c'est une mise en scène.
Depuis près de
3 ans, ils n'ont pas pu rectifier ce tir-là. Chaque année, c'est pour blâmer les gens. On va fermer les écoles. Ça ne se ferme pas.
C'est une très bonne idée. Maintenant, il faut vraiment qu'ils font les sanctions. Quand on les attrape, il ne faudrait pas que ce soit si difficile. Parce qu'on va voir des gens interdits cette année. Les projets, ils vont changer le nom de l'établissement, changer la peinture. Et puis, bon, ça part, c'est encore le même établissement. Donc, il faudrait vérifier de ce côté.
Moi, je pense qu'au Burkina, ici, pour ouvrir une école, là, il y a des procédures à suivre. On ne peut pas ouvrir une école d'abord avant d'aller commencer à faire des papiers. Il faut avoir des papiers avant d'aller ouvrir une école. C'est comme si on dit que les gars volent, on dit qu'on l'accompagne. La compagnie, c'est l'effet illégalement. Viol les faits. On a vu dans les reportages, il y a des écoles de 6 classes, il y a 3 anciens. Comment faire accompagner des fautifs?
En Côte d'Ivoire, la patiente guinéenne atteinte du virus Ebola est guérie, ont annoncé les autorités ivoiriennes. Le porte-parole du ministère ivoirien de la Santé a déclaré ce mardi, je cite, « Après avoir réalisé 2 tests biologiques négatifs en 48 heures, les résultats se sont avérés négatifs et son isolement a été levé. » Fin des citations. Le porte-parole a aussi précisé qu'elle est maintenue en hospitalisation car la patiente est encore très fatiguée. Il faut rappeler que ce sont 5000 doses de vaccins qui ont été reçues par la Côte d'Ivoire le 17 août dernier et la campagne de groupe cible a été déployée à la frontière de la Guinée. Rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie. Dans un communiqué, le Maroc dit avoir pris note de la décision unilatérale des autorités algériennes de rompre les relations diplomatiques. Le Royaume du Maroc dit regretter cette décision complètement injustifiée, mais attendue au regard de la logique d'escalade constatée ces dernières semaines. Le Maroc dit rejeter catégoriquement les prétextes qualifiés de fallacieux, voire absurdes, qui la sous-tendent.
La revue de presse.
Et pour ce mercredi 25 août, c'est Monique Ossoro qui nous propose la revue de presse, une revue majoritairement consacrée à la sécurité et à la nomination du professeur Abdoulaye Souma comme expert international de l'ONU pour l'encadrement constitutionnel de la transition politique au Mali.
Les questions d'insécurité dans le nord de la Côte d'Ivoire alimentent les quotidiens burkinabés. Pour le quotidien, la Côte d'Ivoire est encore dans le viseur des terroristes. Les forces de défense et de sécurité ivoiriennes ont donc été mises en branle pour déjouer cette menace. Notre confrère interpelle alors le Burkina qui doit redoubler de vigilance à ses frontières et d'ajouter qu'il faut que les de la Côte d'Ivoire et du Burkina travaillent en tandem pour anéantir ces va-t-en-guerre. Toujours insécurité, approvisionnement des groupes armés en armes au Sahel quand l'Occident nourrit l'hydre terroriste, écrit le journal Le Pays. À ce propos, notre confrère est persuadé que l'on ne peut gagner le combat contre le terrorisme en Afrique sans assécher ses circuits illégaux d'armement et au-delà, toutes ses sources de financement poursuivent le pays. À cet effet, le pays soutient qu'il faut trouver les moyens de renforcer la surveillance de ses frontières et cela ne devrait pas être aujourd'hui la mer à boire avec le développement de la technologie. Drones et satellites peuvent contribuer efficacement à la traque des marchands illégaux d'armes dans la bande sahélo-saharienne, a-t-il souligné. Autre actualité, le professeur Abdoulaye Souma, nommé expert de l'ONU au Mali selon Sidoya. Province de l'Oudalan, un policier abattu par des hommes armés, titre aujourd'hui au Faso. À en croire le journal, le drame s'est produit le 23 août aux environs de 21h, au moment où la victime avait quitté son domicile pour effectuer des achats dans une boutique de la ville. Décès d'Hissène Abré à Dakar, désormais face à la justice divine, il laisse ses victimes impécunieuses, peut-on lire à la une d'aujourd'hui au Faso. Plus de 20 ans, Hissène Abré avait réussi à passer entre les mailles de la justice grâce au réseau tissé par son épouse sénégalaise. Aujourd'hui, au Faso nous rappelle que les juridictions spéciales avaient reconnu la culpabilité de Abré dans les crimes et tortures commis dans la fameuse piscine de la sinistre DDS, là où en 2021, HRW avait révélé que 1208 personnes avaient trouvé la mort exécutée. C'en est fini. En ce qui concerne la justice temporelle, celle des hommes, seule la divine fera foi.
Et c'est la fin de ce journal réalisé par Fidèle Compaoré. Merci à vous de l'avoir suivi. Réécoutez en intégralité ce journal en podcast sur nos différentes pages Facebook et Twitter. Restez encore connectés, le journal revient en Morée à 12h40 avec Yacouba Oulio.
Radio Omega, l'info en direct.